Vous écoutez
RMC. Face à face.
Philippe Corbet.
Il est 8h33 sur BFM TV, RMC. Bonjour Olivier Véran.
Bonjour Philippe Corbet.
Porte-parole du gouvernement. On a bien besoin de vos lumières ce matin parce qu'on n'a pas tout compris ce que nous a dit hier Gérald Darmanin concernant les grandes lignes du projet de loi immigration qui sera présenté au début de l'année, enfin qui sera examiné au Parlement au début de l'année. Premier plan, ce qui peut-être a attiré le plus d'attention, c'est ce nouveau titre de séjour pour des sans-papiers qui travaillent aujourd'hui ou qui travailleraient dans ce qu'on appelle des métiers en tension, c'est-à-dire le bâtiment, la restauration, là où on manque de bras. Est-ce que ça veut dire, dans la philosophie, est-ce que ça veut dire que vous voulez relancer l'immigration du travail comme dans les années 60 par exemple?
Ça veut dire qu'on vise à améliorer les dispositifs qui sont actuellement en vigueur dans notre pays. Mmh. Vous savez, par exemple, vous me parlez des travailleurs qui sont en situation irrégulière dans notre pays.
Ils travaillent en fait,
qui travaillent dans des métiers en tension, restauration, BTP, etc. Il y a une circulaire qui s'appelle la circulaire Valls, du nom de son auteur, qui permet aujourd'hui à un chef d'entreprise qui aurait salarié une personne en situation de clandestinité depuis plus de 8 mois, si la personne est depuis plus de 5 ans dans notre pays, dans ce cas-là, l'employeur peut demander à ce que son salarié reste, cette fois-ci, dans des conditions régulières en France. Et donc, il doit entamer des démarches qui, parfois, peuvent d'ailleurs coûter à l'employeur jusqu'à 8 à 10 000 euros. Ce qui veut dire qu'on compte sur sa bonne volonté pour régulariser une situation qui pourrait justifier de l'être au regard des besoins de la France
en matière
de travail.
C'est l'employeur qui doit aller voir l'administration en disant « En fait, j'ai fauté, j'emploie illégalement un sans-papier ». J'aimerais bien qu'il reste.
Il a des moyens de subsistance. J'aimerais bien qu'il reste. D'accord. Et là, on lui dit, écoutez, depuis la circulaire Valls, on lui dit, on va engager une régularisation. En tout cas, on va lui donner un titre de séjour régulier pour lui permettre de continuer à travailler. Par contre, vous, l'employeur, on va vous demander de payer au titre des politiques d'intégration. Ça marche pas bien. Et donc, ce qui est proposé par les deux ministres, c'est Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, qui est en charge du travail et qui sont tous les deux en charge de ce texte à venir. C'est-à-dire on inverse la charge de la preuve. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en situation irrégulière dans notre pays, mais qui occupe un travail, c'est-à-dire qui peut subvenir à ses propres besoins, pour lui et éventuellement sa famille, qu'il est intégré dans le pays, qu'il parle français, qu'il respecte les valeurs républicaines, il peut dans ce cas-là, il pourrait demain engager lui-même la démarche consistant à obtenir un titre de séjour et conserver son emploi.
Je vous arrête sur un point que vous dites, éventuellement sa famille, parce que quand on a posé la question à Gérald Darmanin hier soir sur BFM TV, il a dit que ça n'ouvrait pas du droit au regroupement familial.
Ça n'ouvre pas le droit au regroupement familial, mais il y a des situations où les gens sont en clandestinité avec des proches, parfois des enfants sur les territoires
déjà sur le territoire français.
Ça n'ouvre pas droit.
Mais est-ce que ça légaliserait leurs proches, leurs épouses par exemple, qui seraient en situation illégale sur le territoire français, est-ce qu'elles seraient automatiquement régularisées si leur époux qui travaille dans une cuisine ou dans le bâtiment était régularisé?
Aujourd'hui, la circulaire Valls ne prévoit pas une régularisation systématique de tout le monde.
Donc l'épouse resterait illégale.
Comprendre, Philippe Corbet, parce que vous allez me poser beaucoup de questions pratiques. Je veux le dire dès le début de l'interview. Il n'y a pas eu hier, en Conseil des ministres, la présentation d'un projet de loi sur l'immigration.
Il y a eu une grande interview dans le journal Le Monde.
Il y a une grande interview qui pose les bases d'une discussion et d'une concertation. Juste un mot quand même sur la méthode. Il va y avoir un grand mois de discussion et de concertation avec les partenaires sociaux, les forces politiques de notre pays. À l'issue de quoi, au mois de décembre, il y aura un débat avec toutes les forces politiques à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et ensuite, probablement en tout début d'année prochaine, il y aura sur la base de ces réflexions et ces discussions un projet de loi qui sera présenté puis discuté au Parlement. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des grandes lignes, c'est des tendances, c'est les idées qui sont les nôtres qui ont été présentées hier par les deux ministres.
Mais même ces grandes lignes...
Vous allez me demander au bout de combien de temps, etc. Ça s'appelle un projet de loi et c'est pas l'objet.
Puisque vous parlez des grandes lignes, les grandes lignes en elles-mêmes, elles sont importantes. Cette idée, par exemple, du titre de séjour, elle a suscité beaucoup d'interrogations dans la classe politique. Marine Le Pen, par exemple, parle de régularisation de clandestins. L'expression régularisation massive a été utilisée par les trois candidats à la présidence des Républicains, Bruno Retailleau, Éric Ciotti ou Aurélien Pradier, qui était à ce micro de BFM TV, RMC hier matin. On l'écoute. Voici ce qu'il disait.
Il s'agit d'une régularisation massive, j'y suis tout à fait défavorable. C'est une folie, pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin dans notre pays, c'est de reprendre le contrôle sur la politique migratoire. Nous avons une politique migratoire qui est hors de contrôle. Ce n'est pas en régularisant massivement qu'on va reprendre le contrôle.
Donc reprenons l'expression, régularisation massive. Un, c'est bien une régularisation de certains sans-papiers qui travaillent. C'est bien une régularisation, une nouvelle procédure de régularisation.
C'est un changement de méthode d'attribution.
C'est une régularisation.
C'est un changement de méthode d'attribution d'un visa permettant à des gens de travailler sans demander à l'employeur, mais en proposant à l'employé d'attester le fait qu'il subit bien ses besoins. Appelez ça comme vous voulez, je vous dis, il n'y a rien de massif.
Est-ce que c'est massif justement?
Je vais quand même prendre le temps de répondre, vous m'avez interrogé sur ce qu'a dit Marine Le Pen.
Ouais.
Marine Le Pen, lors de son meeting à Perpignan pendant la campagne présidentielle, qu'a-t-elle dit? Elle a dit que
le dernier meeting de la campagne.
Elle a dit que la France devait accueillir, voire elle a même parlé nationalité, nationalisation pour les étrangers qui servent le pays. Là, on parle pas de nationalisation. On parle de permettre à des personnes qui aujourd'hui occupent des postes absolument fondamentaux pour faire tourner notre économie, qui sont en France, qui parlent le français, qui respectent les règles de la République, de pouvoir, au lieu de le faire en situation d'illégalité, de le faire en situation de légalité, leur permettant d'ailleurs, et les obligeant d'ailleurs, à payer, par exemple, des impôts et des charges pour l'État. Je voudrais juste vous donner un cas pratique, parce que sinon, on reste dans quelque chose de théorique. J'ai un bon copain restaurateur à Grenoble. Il a plusieurs restaurants. Et régulièrement, il m'appelle.
Il a des sans-papiers.
Je vais y venir. Régulièrement, il m'appelle en disant, j'ai une dizaine de postes de serveurs à pourvoir. Bon, j'arrive pas. J'ai mis des annonces partout, à Pôle emploi, dans les missions locales. J'en recrute, mais pas suffisamment. Des étudiants, mais pas suffisamment.
Et dit, à la fin. Peut-être problème de formation en France, par ailleurs.
À la fin des fins, viennent pour me demander de prendre le boulot des jeunes qui ont été étudiants. Certains sont en situation irrégulière depuis peu et qui disent, moi, ce boulot, je veux le prendre. Il dit, j'ai deux options. Ou je mets la clé sous la porte, ou j'accepte de les embaucher. Et ils me disent, ce qui est un peu gênant, c'est que je suis à la merci d'une descente de police. Ces jeunes-là, j'en suis garant. Ils bossent, ils ont un salaire, ils veulent payer des impôts, ils parlent parfaitement le français, et je veux pouvoir les garder. Donc, ce restaurateur, moi, je veux pouvoir lui dire qu'il n'est plus dans une situation d'illégalité, qu'il y a du contrôle qui est effectué, qu'il y a des règles à respecter, mais qu'il va pas être obligé de mettre la clé sous la porte de ses restos.
C'est très intéressant ce que vous dites, puisque, donc, l'argument, c'est d'abord la situation économique, une demande du patronat qui est assez ancienne, mais qui est de plus en plus pressante avec difficulté à occuper un de postes. Est-ce que c'est massif? Combien de personnes ça concerne? Vous allez me dire, oui, mais on n'a pas encore fait la liste des métiers en tension, on verra. Mais est-ce que ça se compte en milliers, en dizaines de milliers, en centaines de milliers? Je dis ça parce que, en fait, des postes, des métiers en tension, il y a des centaines de milliers de postes. Vous n'allez pas
mais régulariser
400 000 sans papier.
Non, l'objectif, Philippe Corbet, numéro 1, c'est de mettre en relation les métiers à pourvoir avec les personnes en France qui n'ont pas d'emploi, qui sont au RSA ou au chômage. C'est notre objectif prioritaire. Oui. Et la Première ministre a encore présenté un plan pour cela il y a quelques semaines parce que il y a des départements aujourd'hui où vous avez plus de chômeurs de catégorie A, enfin moins de chômeurs de catégorie A qu'il y a d'emplois en CDI à pourvoir. Donc le plein emploi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut faire en sorte que tous ceux qui n'ont pas aujourd'hui d'emploi on trouve un.
Mais vous l'avez dit, votre famille restaurateur, il trouve pas.
Une fois qu'on a dit ça, il y a encore des métiers dans l'agriculture, dans la restauration, dans le BTP, où on a besoin de main-d'œuvre, de personnes qui peuvent occuper ces postes.
Des 400 000 et
On parle pas de 400 000, je crois que les ministres ont abordé la question de quelques milliers, c'est le cas aujourd'hui, en tout cas avec la circulaire Valls, on parle de 7 à 8 000.
Donc ça sera
an,
dans ces eaux-là, quelques milliers de régularisation.
Nous verrons en fonction des règles, il n'y a pas de plan caché de naturalisation ou de régularisation massive.
Ça sera fixé par la loi.
On est dans quelque chose de pragmatique, d'humain et d'efficace.
Oui, mais justement, est-ce que ce sera fixé par loi, ça sera seulement, je sais pas, 5 000, 10 000 aujourd'hui, cette année, ou 50 000, ce sera fixé par la loi.
Ce qui pourrait être fixé dans le droit, c'est la liste des métiers dits à tension, de manière à permettre à des employeurs qui, en définitive, n'arrivent pas à recruter, de pouvoir aller chercher, comme on le fait d'ailleurs de tout temps dans notre pays. En réalité, on change une règle pour la rendre plus efficace, plus pragmatique et sans doute plus juste. Mais je vais vous donner un ou deux autres exemples, parce que je pense que c'est important de fonctionner à partir de ça. J'ai été encore contacté, parce qu'il se trouve que j'ai été ministre de la Santé il n'y a pas longtemps, et donc on m'appelle souvent pour des questions de dossiers de soignants. Une infirmière syrienne qui est arrivée en France il y a un mois, elle a fait une demande d'asile. On sait que quoi qu'il arrive, elle n'aura pas de réponse avant 6 mois. Donc ça veut dire que pendant 6 mois...
Et que l'asile lui sera accordé puisqu'elle est syrienne.
Et lui sera accordé puisqu'elle est syrienne. Mais donc ça veut dire que pendant 6 mois, on la regarde en disant « vous ne pouvez pas travailler, donc vous allez vivre de la charité ». Alors il y a des associations qui font ça très bien, mais sauf qu'il se trouve qu'il y a plein d'hôpitaux, et notamment l'hôpital dans lequel elle veut travailler, qui a besoin d'elle. Et donc, plutôt que de lui dire, vous allez attendre pendant 6 mois, 1 an, avant de pouvoir commencer à travailler, on va lui dire, manifestement, vous allez être amené à rester chez nous et à pouvoir travailler pour subvenir à vos besoins, et en plus occuper un poste pour lequel on a besoin de vous. C'est quand je dis l'efficacité, le pragmatisme et l'humanisme, c'est ça.
Juste une précision, parce qu'il y a d'autres critiques qui viennent de différents camps, y compris une partie de représentants syndicaux qui disent, mais attention, nous on aimerait qu'il y ait des augmentations de salaire. S'il y avait des augmentations de salaire, peut-être davantage de gens qui sont français ou qui sont en situation régulière en France aimeraient faire ces postes-là. Au fond, est-ce que ça ne va pas tirer les salaires vers le bas?
Ça ne va pas tirer les salaires vers le bas. D'abord, on travaille en parallèle sur l'attractivité des métiers dits à tension. Parce qu'il y a des métiers, on l'avait vu avec les chauffeurs de bus scolaires, par exemple, quand vous avez que quelques heures de travail hebdomadaires et que c'est des horaires morcelés, c'est compliqué. Donc, on fait en sorte de travailler avec les branches professionnelles pour que, en plus de cette activité, ils puissent avoir des activités complémentaires pour vivre correctement leur métier. Donc, ça n'empêche pas du tout de travailler là-dessus. Mais mon copain restaurateur grenoblois, Il a augmenté les salaires. Et il propose d'avoir du temps qui n'est pas morcelé, avec un travail qui n'est plus haché. Ça reste compliqué, Philippe Corbet. Dans les endroits où vous êtes déjà quasiment en plein emploi, ce qui est le cas dans mon territoire, ça devient très compliqué parfois de recruter.
Mais vous voyez, quand je vous écoute, vous décrivez des situations différentes et qu'on connaît et qu'on entend en permanence dans des reportages sur BFM TV ou RMC ou ailleurs, c'est pas quelques milliers de postes. C'est plus que ça. Ça va pas régler la situation de tous les restaurants ou de la plupart des restaurants de France si ça se limite à 5000 ou 7000. Je dis ça parce qu'en fait, on a l'impression que cette idée qui a été lancée hier matin a eu beaucoup d'écho, peut-être plus que vous ne l'imaginiez, et que, au fil de la journée, vous avez, d'une certaine manière, rabattu un peu votre ambition, que, finalement, vous avez dit, oula, on a peut-être un peu trop d'audace, on va dire, attention, ça va être que quelques milliers d'étrangers qui seront en régularité.
Mais l'enjeu n'est pas l'enjeu de l'audace, l'enjeu est de répondre aux demandes des Français en la matière. Et en parallèle de cela, nous sommes aussi capables de dire, parce que c'est important de le dire, que celles et ceux qui n'ont pas vocation à rester dans notre pays ne doivent pas rester dans notre pays, et que nous devons être beaucoup plus efficaces pour mener des campagnes d'expulsion lorsque les gens ne sont pas amenés à rester, et que l'efficacité, le pragmatisme et l'humanisme, c'est aussi être capable de dire à quelqu'un qui vient d'un pays où manifestement il n'y a pas de guerre, où sa personne n'est pas en danger de par sa situation personnelle, qu'il est devenu illusoire, excessif et même injuste, de l'autoriser à avoir jusqu'à 12 recours pour bien vérifier qu'en fait il ne pourra pas rester en France et que dans l'intervalle de plusieurs années, il n'aura pas pu prendre de poste, pas pu occuper de travail, pas pu subvenir à ses besoins. Donc c'est de dire, en réalité, de regarder l'ensemble de la focale de l'immigration et de se dire il y a ceux qui sont amenés à rester et ça tombe bien parce qu'en plus on a plutôt envie qu'ils restent, ils sont en capacité de subvenir à leurs besoins, et il y a ceux qui sont venus contenter leur chance pour X ou Y raison, il ne me revient pas de le juger, mais qui n'ont pas vocation à rester, et ces personnes-là justement, en contrepartie vont sortir plus efficacement du territoire.
Il y a aussi tout un aspect plus répressif, pour simplifier, dans ce texte, et notamment ce qu'on appelle les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. L'une des mesures annoncées par Gérald Darmanin, c'est l'idée que ceux qui ont reçu comme cela un avis d'expulsion, une OQTF, seraient inscrits au fichier des personnes recherchées. Deux choses. D'abord, ça ne serait pas dans la loi, ça. Ça ne relève pas du législatif, ça peut être fait demain matin. Il n'y a pas besoin de passer par le Parlement. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça change, en fait, qu'il soit rajouté à un autre fichier ? Qu'est-ce que ça change dans les faits ? Est-ce que ça va permettre d'expulser ou de reconduire à la frontière davantage d'étrangers qui ont reçu cet avis d'expulsion ?
Ça va permettre de mieux surveiller, mieux contrôler, mieux identifier, et donc, oui, à l'arrivée, de mieux expulser les personnes qui n'ont plus vocation à être...
De les ajouter dans un autre registre.
Vous savez, regardez, je vous ai parlé de mon infirmière syrienne ou de mon restaurateur grenoblois. Je peux vous donner un autre exemple. J'ai été interpellé aussi de par des gens très bien de mon territoire, mais qui ont parlé d'un jeune malien qui n'a pas de travail, mais qui espère en trouver un, mais qui est là depuis 4 ans, et c'est compliqué, mais il est loin de sa famille, et qui me disent il faudrait faire une démarche auprès du préfet pour lui demander de rester. Ça simplifiera peut-être. Oui, il n'a pas de boulot aujourd'hui, mais peut-être que demain il n'en aura pas. Peut-être que demain il en trouvera un. Bon, aujourd'hui il vit de la charité, etc.
Il a une OQTF ?
Il a reçu une OQTF. Je ne fais pas la démarche auprès du préfet, considérant que la situation n'est pas aujourd'hui de nature à lui permettre de rester durablement en France, d'occuper un emploi,
S'il est ajouté à un autre registre, qu'est-ce que ça va changer concrètement ?
Ce que le ministre de l'Intérieur veut, c'est plus d'efficacité dans notre capacité à faire partir des gens qui n'ont pas vocation.
Pourquoi l'ajouter à un registre, ça change quelque chose ?
Je vous l'ai dit, dans l'identification, le contrôle, éventuellement les méthodes de surveillance. Tout cela sera encore une fois soumis à concertation, à discussion, et de cette concertation naîtront un certain nombre de propositions annexes qui permettront d'attester du côté efficace de telle ou telle mesure.
Alors, pour faire simple, on sait que le gouvernement n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, donc pour que ce texte soit adopté, rentre en application, il faut que vous ayez une majorité, vous ne l'aurez pas avec des voix de gauche sur ce texte, donc vous avez besoin des voix des Républicains. Est-ce que ce titre de séjour n'est pas de mesure, ne risque pas de vous empêcher d'avoir une majorité sur ce texte ? Est-ce que, pour tout vous dire, est-ce que vous n'allez pas en fait retirer cette mesure quand vous verrez que vous n'aurez pas de majorité si elle reste dans le texte ?
Je suis pas un historien de la politique, mais je connais quand même un petit peu l'évolution des idées politiques et des programmes politiques depuis les 20 dernières années dans notre pays. Il me semble que rien de ce qui a été proposé hier par les deux ministres de l'Intérieur et du Travail ne sont incompatibles avec les projets, les campagnes, les propositions, non seulement de la droite républicaine, mais pour partie, une partie de la gauche républicaine. Et donc, moi, je considère que sur cette question de l'immigration, comme d'ailleurs sur la question générale du travail, des retraites ou de la sécurité intérieure, nous avons vocation à faire majorité avec des parlementaires, notamment les parlementaires issus de la droite républicaine. Et je pense que les Français, pardonnez-moi, auraient un peu de mal à comprendre que pour des questions de posture ou de congrès d'un parti politique, des députés refusent de voter par principe en caricaturant quelque chose qu'ils auraient pu porter eux-mêmes s'ils avaient été au pouvoir.
Olivier Véran, petite parenthèse sémantique, il y a une formule qui a été utilisée par Gérald Darmanin dans Le Monde, dans les couloirs de l'Assemblée, sur BFM TV hier soir. Il faut être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Est-ce que c'est pas un vocabulaire d'enfant ? C'est par exemple ce que dit Marine Le Pen ce matin, il infantilise les Français. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants ? L'important, c'est d'être respecté la loi ou pas respecté la loi. On n'est pas là, vous n'êtes pas là pour juger les gens s'ils sont gentils ou pas.
Je crois que les Français en ont assez d'avoir de constater qu'il y a des personnes qui sont en situation irrégulière sur notre territoire, qui ont commis des délits et qui restent sur notre territoire national. Ce que veut dire le ministre de l'Intérieur, qui a toujours le sens des formules d'ailleurs, et je le salue, c'est qu'il y a des personnes, c'est horripilant et on l'a vu avec des faits divers absolument sordides, et qu'il nous faut donc la plus grande fermeté et la plus grande efficacité.
Et qui sont les gentils, qui sont les méchants dans l'histoire?
Mais quand vous avez, pardonnez-moi, quelqu'un qui est en situation irrégulière, qui commet délit après délit, voire des agressions à la personne, et qui est en centre de rétention administrative en attendant d'être expulsé, cette personne doit être expulsée. On doit être capable de le dire. Et je vous ai parlé aujourd'hui d'humanisme, ce matin, d'humanisme, d'efficacité, de pragmatisme. Qui veut dire à peu près, pardonnez-moi, la même chose.
Olivier Véran, puisque vous dites que vous saluez le sens de la formule de Gérald Darmanin, il a utilisé une autre formule en début de semaine. Il a parlé d'éco-terrorisme à propos de ce qui s'était passé à Sainte-Soline. Il y a eu plusieurs dizaines de gendarmes blessés. Il y a aussi des militants écolos blessés. Il y a des gendarmes qui ont reçu des boules de pétanque. Il y a une députée écolo qui a porté plainte contre X. Le ministre de l'Intérieur avait parlé d'éco-terrorisme. Et vous avez été interrogé à ce sujet hier lors du compte rendu du Conseil des ministres à deux reprises. Vous n'avez, vous, pas repris le terme éco-terrorisme. Et donc, on a posé la question hier soir à Gérald Darmanin sur BFM TV. Pourquoi est-ce que le porte-parole du gouvernement ne reprend pas cette formule? Voici ce qu'il vous a dit.
N'ayons pas peur des mots. Les Français, vous savez, ils en ont marre que leurs dirigeants politiques ne savent pas nommer la réalité. J'essaye de nommer la réalité des choses. Et il y a eu, effectivement, un certain nombre d'actes qui s'apparentent à de l'éco-terrorisme que nous constatons, malheureusement, de scènes de plus en plus violentes.
Olivier Véran, vous avez peur des mots, selon Gérald Darmanin?
Oui, Philippe Corbet, est-ce que ça me choque qu'il y ait plus de 60 gendarmes?
Non, mais c'est pas la question. Ça choque tout le monde.
Vous savez.
Non, mais est-ce que c'est de l'éco-terrorisme?
Je vous force pas dans vos questions, vous ne vous forcerez pas dans mes réponses. Est-ce que ça me choque qu'il y ait plus de 60 gendarmes qui rentrent chez eux blessés, dont 20 gravement le soir, pour avoir été blessés dans un champ lors d'une manifestation illégale? Est-ce que ça me choque que des parlementaires portant écharpe participent à cette manifestation illégale? Est-ce que ça me choque que des dizaines de personnes se revendiquant de l'ultra-gauche viennent non pas du tout mues par la volonté de servir l'écologie, mais par la volonté d'en découdre, attaquer des forces de l'ordre à coups de boules de pétanque ou de mortier? Oui.
Donc, est-ce que c'est du terrorisme?
Le ministre de l'Intérieur a les mots qui le choisit. Je rentrerai pas dans un débat sémantique.
Mais vous les reprenez pas.
Je vous dis que je suis tout aussi choqué que le ministre de l'Intérieur et je pense tout aussi choqué que une très large majorité des Français par cette violence.
Mais ce qu'il faut, vous êtes porte-parole du gouvernement, il est numéro 3 du gouvernement, il utilise un mot, vous ne le reprenez pas, il dit, vous n'ayez pas peur des mots.
Il faut nommer, attendez, vous voulez nous entrer, vous savez, regardez ce que vous essayez de faire. Je vous ai dit que le.
Non, j'essaie de comprendre si c'est terrorisme ou pas.
Le ministre avait le sens de la formule, que je respectais et que je m'inscrivais dans ses pas pour l'action qui est conduite. Je vous dis que je ne veux pas entrer dans un débat sémantique, c'est pas ça qui compte. Pardonnez-moi.
Enfin, lui, il semble assez agacé que vous ne repreniez pas ce
qu'on définit, que vous avez peur des mots. Ce qu'on définit, c'est la montée d'une forme de violence sociale qu'on retrouve dans la rue les samedis après-midi, les jours de manifestation avec des black blocs, qu'on retrouve dans les champs à l'occasion d'un mouvement à portée écologique, mais qui n'a rien à voir avec le militantisme. Je distingue le militantisme et l'activisme de la violence gratuite, et je m'inquiète, comme le ministre de l'Intérieur, d'une forme de banalisation d'une violence qui peut, si elle devait se poursuivre, conduire à des remises en question de l'état de droit. Donc je vous dis que nous partageons totalement le même objectif, restaurer la sécurité, et que comme lui, je n'oppose pas sécurité et écologie.
Mais vous n'avez pas repris le mot terroriste pour ceux qui ne l'auraient pas noté. Olivier Véran, la plupart des Français...
Je peux reprendre tous les mots que vous voulez, si vous voulez, Philippe Corbet, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de définition de ce mot dans le dictionnaire.
Il y a une définition juridique, en tout cas, parce qu'il y a par exemple un parquet national antiterroriste, il y a des gardes à vue multipliés par deux.
C'est parce que je ne veux pas rentrer dans un débat juridique, avec les implications que cela comporte, que je vous dis que je rejoins le ministre sur la définition de ce qu'on est en train de décrire. Il faut nommer les choses, je pense que c'est plus important.
Olivier Véran, la plupart des Français, le grand public, vous a découvert lorsque vous avez été nommé ministre de la Santé. C'était au tout début de la crise Covid. Vous remplacez Agnès Buzyn, qui était candidate à la mairie de Paris. Elle s'est exprimée ces derniers jours à plusieurs reprises dans la presse. Elle est mise en examen devant la Cour de justice de la République pour la gestion de la crise Covid. Elle a eu des mots assez durs sur la manière, sur ce qu'elle a vécu comme une sorte d'impossibilité d'alerter le président de la République et le premier ministre de l'époque. Est-ce que vous avez eu des contacts avec elle depuis ses déclarations dans la presse, dans Le Monde et dans d'autres médias? Et est-ce que vous comprenez ce qu'on perçoit comme une forme de malaise, de blessure de cette femme politique qui s'est sentie impuissante à alerter le président de la République et le Premier ministre?
C'est pas ce qu'elle dit.
C'est comme ça qu'on comprend
en lisant.
Elle ne
dit pas qu'elle s'est sentie impuissante, et je pense qu'elle a fait beaucoup d'interventions médias depuis pour permettre de davantage clarifier les choses.
Corriger.
D'abord, redire ce que je dis depuis le début. Je suis arrivé à la tête d'un ministère de la Santé qui était en cours de préparation et qui avait été mobilisé comme il le fallait par ma prédécesseure Agnès Buzyn, qui est un grand médecin et qui a été une grande ministre de la Santé.
Et qui est visiblement blessée de cette expérience.
Je le dis et je conçois parfaitement qu'elle puisse se sentir injustement mise en cause, mais je n'ai pas non plus à juger du fonctionnement de la justice de mon pays. Moi-même, je pourrais en rendre compte à la justice le moment venu et je respecte le fonctionnement.
Pour l'instant, elle est la seule mise en examen.
Je n'ai pas à intervenir dans une affaire de justice qui est ouverte.
Mais vous comprenez cette blessure parce que franchement, quand on la lit dans Le Monde, son journal, c'est une blessure d'une femme qui a eu l'impression d'être impuissante.
Je redis mon amitié. Elle n'a pas dit qu'elle était impuissante. Je redis mon amitié pour Agnès Buzyn et je redis que les choses avaient été préparées et que tous les entretiens que j'avais eus, même avant d'être nommé, avant de savoir que je deviendrais ministre, attestent qu'elle était sensibilisée. Et je peux aussi confirmer qu'au plus haut niveau de l'État, tout le monde était au fait, sensibilisé, en ordre de marche, préparé pour cette bataille collective que nous allions être amenés à conduire face au Covid.
Vous avez été entendu, Olivier Véran, vous craignez une mise en examen éventuellement comme Agnès Buzyn ?
Mais moi, je n'ai jamais craint quoi que ce soit de la justice de mon pays, parce que je fais confiance. J'attends d'être auditionné par la justice, par la Cour de justice de la République. J'étais perquisitionné, ce qui est déjà pas mal, et j'attends, c'était il y a plus de 2 ans, et j'attends d'être convoqué un jour prochain.
Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui n'a donc pas repris le mot d'éco-terrorisme.
Mais tenez pas ça, mais si vous voulez, je le reprends. Qu'est-ce que vous voulez?
Je n'ai aucun coin
sur la façon dont le ministre de l'Intérieur et moi-même appréhendons une même situation et je crois que les Français le partagent.
Merci d'avoir été sur BFM TV RMC ce matin, il est 8h54.